je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ne soyez pas cruel avec moi. Ne me donnez pas d'espoir. » Mon ami, je veux te donner de l'espoir, je ne crois pas que ce soit cruel. La Bible dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » Une traduction dit « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. S'il n'y a pas d'espoir, la foi est sans espoir. » S'il n'y a pas d'espoir, la foi n'a pas de raison d'être. Mon ami, la foi et l'espoir naissent tous deux de la parole de Dieu. L'espoir, c'est un peu comme les plans du bâtiment. La foi est le matériau de construction. La foi peut rendre réel ce qui se trouve sur les plans. S'il vous plaît, comprenez-moi bien. Je veux vous donner de l'espoir.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Bonjour à tous, je m'appelle Bélez Conley. Et je vous invite à passer les prochaines minutes avec moi pour parler d'un sujet très important. Nous allons parler de la guérison. C'est important parce qu'à un moment ou à un autre de sa vie, chacun aura besoin de ce message pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on trouve des myriades d'exemples montrant que Dieu guérit. Il est intéressant de noter que dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, avant même que Dieu ne donne à son peuple les 10 commandements, il lui a révélé qu'il était celui qui guérit. Il dit « Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit ». C'est un peu comme une mère qui s'occupe de la santé et du bien-être physique de son enfant avant de s'occuper de son éducation. Je crois qu'il s'agit d'une révélation de la façon dont, dès le début de notre relation avec Dieu, il veut que nous sachions qu'il guérit. Jésus a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Sa vie, son attitude et ses actions sont une révélation du cœur du Père. En lisant les Évangiles, vous constaterez qu'il a passé beaucoup de temps à guérir les malades. Il s'occupait des foules. Les gens lui apportaient leurs malades et il les guérissait tous. Nous avons toutes sortes de récits individuels dans lesquels Jésus a parfois fait un détour pour apporter la guérison à quelqu'un. Dans ces récits, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, nous trouvons des questions. Parfois, ce sont des questions que le Seigneur pose au milieu du récit de guérison. Parfois, c'est une question que les gens posent. Parfois, il y a simplement une sorte de question implicite dans le récit. Ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons commencé à faire dans le dernier programme. Si vous l'avez manqué, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web et vous le trouverez. Cherchez-le. Je pense que cela vaudrait la peine que vous preniez le temps de vous asseoir et de passer en revue les questions précédentes que nous avons abordées. Nous en arrivons maintenant à la 7e question, si vous gardez le compte, que nous trouvons dans l'un des récits sur la guérison. Nous allons examiner cette question comme nous l'avons fait pour toutes les autres questions de la dernière fois. Nous allons simplement y réfléchir et en parler. Comme je l'ai dit, c'est extrêmement important. En ce moment, vous pourriez vous dire, « Je n'ai pas besoin de ça, je suis en bonne santé, c'est formidable, et vous devez en remercier Dieu chaque jour. » Si vous ne souffrez pas, si vous avez été épargné par la maladie dans votre vie, vous devriez rendre gloire à Dieu, car il y a des gens qui n'ont pas connu de jour sans douleur ou sans maladie depuis vraiment longtemps. Ils ne se souviennent pas de ce que c'est que d'être en bonne santé, épanoui ou guéri. C'est une chose pour laquelle nous devons remercier Dieu. Mais comme je l'ai dit plus tôt, un jour viendra où nous aurons besoin de ce message pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Nous en arrivons à la question suivante qui se trouve dans Jean 5. Je veux lire les versets 1 à 6, et la question est en fait posée par le Seigneur lui-même. Jean 5, à partir du verset 1, dit « Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. C'est vraiment longtemps. Il est dit, Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Quelle question ! Veux-tu être guéri ? N'est-ce pas évident ? Ce type est malade. Les malades ne veulent-ils pas être guéris ? Il est à la piscine. La seule raison pour laquelle les gens restaient autour de la piscine était d'attendre que l'eau soit agitée lorsque l'ange venait et agitait l'eau. Il est là, à la piscine. Quel genre de question est-ce là ? Cela frise l'offense, Seigneur. Pourquoi demander à un malade « veux-tu être guéri ?» C'est évident, puisqu'il est là, à la piscine. Il est dit, Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Cela ne signifie pas nécessairement que le Seigneur a su surnaturellement par le Saint-Esprit depuis combien de temps cet homme était malade. Je pense que n'importe qui aurait su que ce type était dans cet état depuis longtemps. Tout chez lui le disait. Sa posture le disait, l'expression de son visage et sa physionomie le disaient. Tout en lui disait, « Je suis dans l'impasse, il y a longtemps que je suis dans cet état. » Jésus lui pose cette question, « Veux-tu être guéri ? Veux-tu aller bien ? Le veux-tu vraiment ?» Certains disent, « Oui, bien sûr que je le veux. Je suis à l'église, il était à la piscine. Le veux-tu ? » Vous voyez, parce qu'il est possible de ne pas se contenter d'être allongé à l'extérieur, mais d'être aussi allongé à l'intérieur. On peut tellement s'habituer aux circonstances ou à la situation que l'on a, en quelque sorte, baissé les bras intérieurement. Nous pouvons faire tout ce qu'il faut à l'extérieur, de sorte qu'extérieurement, on a l'impression de faire ce qu'il faut. Dans son cas, ok, je suis au bord de la piscine, je continue à suivre la gestuelle, mais à l'intérieur, il était couché. En fait, Jésus a ressenti que ce type s'était couché et avait abandonné à l'intérieur. La réponse de l'homme a été la suivante, « Je n'ai personne et, quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » En fait, il rejette la responsabilité de son état sur d'autres personnes. « Je n'ai personne, je suis dans cet état à cause de ce que quelqu'un d'autre ne veut pas faire pour moi. Quand j'essaie d'entrer dans la piscine, quelqu'un y entre avant moi. » Donc ce n'est pas juste à cause de ce que les autres n'ont pas fait pour moi, c'est à cause de ce que les autres m'ont fait. Dans tous les cas, ce n'est pas ma faute. Lorsque nous commençons à blâmer les autres et même à blâmer Dieu pour notre sort dans la vie ou nos circonstances, nous sommes dans l'impasse, nous sommes coincés. Je voudrais vous demander, et je voudrais le faire aussi gentiment que possible, de prendre cela dans le bon sens. Car je sais que certaines personnes qui me regardent en ce moment ont souffert. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, « Ne soyez pas cruels avec moi, ne me donnez pas d'espoir. » Mon ami, je veux te donner de l'espoir. Je ne crois pas que ce soit cruel. La Bible dit « la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère ». Une traduction dit « la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère ». S'il n'y a pas d'espoir, la foi est sans espoir. S'il n'y a pas d'espoir, la foi n'a pas de raison d'être. Mon ami, la foi et l'espoir naissent tous deux de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les promesses de Dieu, lorsque nous regardons des histoires comme celle-ci, l'espoir prend vie dans notre cœur et la foi est ce qui donne corps à cet espoir et la foi est la substance. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'espoir est l'objectif qui se trouve devant nous. C'est la vision, le rêve, si vous voulez. La foi est ce qui nous permet d'y parvenir. On pourrait dire que l'espoir est comme les plans du bâtiment. La foi est le matériau de construction. La foi peut transformer en réalité ce qui figure sur les plans. Donc oui, c'est vrai. De la manière la plus aimable qui soit, prenez ça comme il faut, je veux vous donner de l'espoir. C'est vrai, je plaide coupable. Je veux partager avec vous notre incroyable Jésus, ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il est encore prêt à faire parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez-moi. Ne vous sentez pas condamné de quelque manière que ce soit en raison de votre situation. Ce n'est pas le but. Ça, c'est le diable qui vous parle. Vous êtes en cheminement, je suis en cheminement. Simplement dans votre cœur, dites « Seigneur, je suis en chemin, je vais te prendre au mot et te faire confiance pour faire des choses en moi, pour construire en moi ce qui doit être construit en moi, afin que tu puisses construire des choses à travers moi et pour moi et toucher d'autres personnes à travers moi. Nous voulons laisser Dieu le faire. » Encore une fois, cette première question, « Voulez-vous être guéri ?» C'est ma question. « Voulez-vous que les choses s'arrangent ? Voulez-vous être guéri ?» C'est très important, le désir est si important. Si ce désir en vous est mort, vous pouvez suivre toute la gestuelle. Vous pouvez appeler les anciens et leur demander de prier sur vous et de vous oindre d'huile. On peut vous imposer les mains, vous pouvez faire des prières à partir de maintenant et jusqu'à ce que le royaume vienne. Et cela ne servira à rien s'il n'y a pas en vous ce désir ardent que les choses changent. Je me souviens d'une jeune femme. En fait, je lui ai parlé il y a quelques semaines. Cela s'est passé il y a probablement 38 ans dans l'église et elle voulait venir à l'église et recevoir la prière pour un membre de sa famille. C'était très important pour elle. Sa voiture est tombée en panne et elle habite dans une autre ville. C'est une ville voisine, mais c'est à 15 ou 20 kilomètres. Elle avait un grand désir qui l'a poussée à prendre un vélo et à rouler toute la distance. Certains auraient dit, si c'était la volonté du Seigneur, ma voiture ne serait pas tombée en panne. Ce doit être un signe de Dieu. Ou alors, j'ai un vélo, mais ça va me prendre 40 minutes pour aller là-bas. Je ne vais pas faire du vélo pendant 40 minutes, il fait froid dehors. Mais elle l'a fait. Je pense qu'il s'agit là d'une question importante, encore une fois. Certains auraient pu dire, « Seigneur, c'est à la limite d'être offensant. Tu es en train de demander à une personne malade, « Veux-tu guérir ?» À une personne qui fait ce qu'extérieurement il faut faire pour guérir, tu lui demandes, « Veux-tu vraiment cela ?» Mais le Seigneur a posé cette question et donc, nous devons y réfléchir. En fait, nous devons y réfléchir profondément. Très bien, nous passons à une autre histoire. Celle-ci se trouve dans l'Évangile de Marc, au 10e chapitre, et commence au verset 46. Je vais me contenter d'exposer la situation. En parlant de choses évidentes, pourquoi poser cette question ? C'est vraiment le sommet. Du moins, c'est ce que nous pourrions dire ici. Cette question paraît presque insensée. Elle est tellement évidente. Pourtant, le Seigneur a posé la question. Dans Marc 10, à partir du verset 46, il est dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il s'agit là d'une désignation pour le Messie. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de garçons et d'hommes s'appelaient Jésus. C'était un nom très courant, mais il entend « C'est Jésus de Nazareth !» Cet aveugle a manifestement entendu parler des œuvres de Jésus. Il a fait le lien entre les deux. Il l'a appelé « Fils de David », une désignation pour le Messie. Verset 48. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Bien, voilà quelqu'un qui veut vraiment quelque chose. Tout le monde lui a dit, « Tu déranges les gens, tu dois te taire. » Il a fait tout le contraire, il s'est mis à crier de plus en plus fort. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Une petite réflexion en passant. Certains commentaires disent que cette couverture n'était pas seulement quelque chose que l'on utilisait pour ne pas grelotter dans le froid. C'était peut-être aussi le cas, mais certains commentaires disent qu'il s'agissait d'une couverture de mendiant. L'aveugle s'asseyait pour mendier. Il avait sa couverture et les gens jetaient des pièces sur cette couverture. Selon certains commentaires, le fait qu'il ait jeté sa couverture signifie « D'accord, j'en ai fini avec cette vieille vie ». Il s'attend à recevoir quelque chose du Seigneur qui lui permettra de ne pas retourner à la mendicité et à son ancien mode de vie. Je pense que c'est intéressant, cela vaut certainement la peine d'y réfléchir parce que la Bible dit que la foi sans les actions correspondantes est morte, elle est sans vie, elle ne produit rien. Verset 51, Jésus prit la parole et lui dit, et c'est là la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Il y a plusieurs choses que j'aime bien ici. Une fois que vous êtes béni par le Seigneur, vous devez le suivre. Il n'a pas été guéri juste pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Il a commencé à suivre Jésus et quand quelque chose vous arrive, écoutez, le Seigneur ne vous guérit pas juste pour que vous puissiez retourner jouer au tennis. Vous pouvez jouer au tennis, mais vous devez le suivre. Cela doit être la priorité numéro un dans votre vie. En fait, il faut simplement le suivre parce qu'il est bon. Il est le Seigneur, il est le seul et unique Sauveur du monde. Il y a tant de choses dans cette histoire, et nous revenons à la question. Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» N'est-ce pas évident, Jésus ? Cet homme crie pour obtenir miséricorde. C'est évident, non ? Il est aveugle. Ils amènent cet aveugle à Jésus, et Jésus pose une question ridicule d'un point de vue naturel. N'est-ce pas évident, Jésus ? Que ce type veut être guéri. Il a dit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et c'est intéressant, Jésus répond, « Ta foi t'a sauvé. » Il avait crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il avait foi en la miséricorde de Jésus. Il est toujours le même sauveur compatissant et miséricordieux qu'il a toujours été. Il est notre grand prêtre compatissant et miséricordieux. Nous pouvons venir à lui au moment où nous en avons besoin et trouver la grâce de nous aider et la miséricorde de nous aider au moment où nous en avons besoin encore aujourd'hui. Revenons à la question. Que veux-tu que je fasse? L'homme aurait pu répondre n'importe quoi. Il aurait pu dire, « Eh bien, Seigneur, je n'ai pas obtenu grand-chose en mendiant ces derniers temps. J'aimerais vraiment que mes finances augmentent pour que je puisse profiter encore de bons repas. » Ou encore, « Seigneur, cela fait 3 semaines que j'ai mal à la tête. » Il aurait pu dire n'importe quoi, mais Jésus voulait qu'il soit précis. La foi est spécifique. En Marc 11, 24, Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et tout signifie des choses claires et précises. La foi exige la spécificité. La foi exige que nous soyons spécifiques. Certaines personnes prient de manière si générale qu'elles ne reconnaîtraient pas la réponse si elles s'approchaient d'elles, leur tapaient sur l'épaule et disaient « Me voici ». N'ayez pas peur d'être précis. Le livre de Jacques dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Je pense que nous pouvons dire « parce que vous ne demandez pas de façon spécifique ». Je me souviens de nos enfants qui sont tous adultes aujourd'hui et ont leur propre famille, mais lorsqu'ils étaient petits et qu'ils demandaient à leur père de leur donner quelque chose, il pouvait s'agir d'une paire de chaussures d'une chemise ou d'un jouet. Mes enfants n'avaient pas peur d'être précis. Ils me disaient la couleur qu'ils voulaient, ils me disaient la marque qu'ils voulaient, ou peu importe ce que c'était. Je me souviens d'une fois où les garçons m'ont posé la question. Je devais prêcher à Minneapolis, dans le Minnesota, dans l'église d'un ami. Dans la ville de Minneapolis, il y a ce qu'on appelle le Mall of America. À l'époque, c'est peut-être encore le cas, je ne sais pas, mais c'était le plus grand centre commercial des États-Unis. Je suis avec mon ami. Je prêche et nous allons déjeuner au Mall of America. Je lui dis, il faut que j'achète un jouet pour mes garçons. J'ai passé au moins la moitié de l'après-midi à parcourir ce centre commercial de 4 millions de mètres carrés à la recherche d'un jouet spécifique. Je suis allé dans tous les magasins de jouets, les uns après les autres, et ils ne l'avaient pas. Bon, on a regardé sur la petite carte et il y a un autre magasin de jouets. C'est de l'autre côté du centre commercial. Nous avons marché 20 minutes de plus pour y aller et ils ne l'avaient pas. On s'est dit, bon, il y a un autre magasin de jouets par ici. Nous sommes allés dans un grand magasin après l'autre. Nous avons cherché, cherché et cherché parce qu'ils étaient spécifiques. Soyez précis dans votre demande. Ne vous contentez pas de prier « Bénis-moi Seigneur ». Le Seigneur vous dira « J'ai des millions de bénédictions différentes. Quelle bénédiction veux-tu exactement ?» La foi est spécifique. J'ai déjeuné avec un ancien. C'est l'un des héros de la foi d'une génération précédente. Il est au ciel depuis longtemps, il fait partie des hommes qui ont changé le monde, qui a contribué à façonner l'Église et a accompli des choses extraordinaires dans les missions mondiales en diffusant l'Évangile sur les ondes et qui est vraiment une légende de la foi. J'ai eu le privilège de le connaître. Un jour, lui et moi partageons un repas à midi. Je lui ai dit, « Écoutez, je suis un jeune pasteur et j'ai besoin de sagesse. Pouvez-vous me faire part de certaines choses qui m'aideront ?» Je n'oublierai jamais. Il m'a regardé et m'a dit, « Fiston, il va falloir que tu sois plus précis que ça. » Cela m'a permis d'apprendre une leçon ce jour-là. Nous devons exprimer clairement ce que nous attendons du Seigneur. S'il s'agit de guérison, soyez précis. Par exemple, « Seigneur, j'ai besoin que mon taux de sucre dans le sang soit normal. Seigneur, j'ai besoin de recouvrer la vue. Seigneur, j'ai besoin de guérir de ce problème de sinus. » Soyez précis. L'histoire de cet aveugle Bartimée qui implorait miséricorde me rappelle un événement qui s'est produit il y a de nombreuses années. Une équipe de l'Église s'est rendue au Mexique pour une mission de courte durée. Nous y avons passé quelques jours avec un de mes amis qui était missionnaire. Il est toujours missionnaire au Mexique aujourd'hui. Nous sommes allés dans une région montagneuse, un peu isolée. Il y avait un très, très grand village. Il n'y avait pas de route goudronnée, il n'y avait que des chemins de terre. Il y avait de grandes et petites crevasses partout où la pluie était venue ronger les chemins de terre. Voici ce que le missionnaire qui ouvrait la voie avait fait. Il avait empilé des pneus et installé un gros haut-parleur sur le dessus de ses pneus. Il avait relié le haut-parleur à un petit lecteur de cassette, pour vous dire à quel point c'était il y a longtemps. Il avait une cassette sur laquelle un homme prêchait en espagnol. Il prêchait un message de guérison. Il le diffusait sur les haut-parleurs. On pouvait l'entendre dans tout le village. Nous sommes revenus, nous sommes restés là et nous avons remarqué qu'il y avait un type qui montait lentement. C'était une sorte de chemin de terre escarpé avec de petites fissures et des crevasses. Si on ne faisait pas attention, on pouvait se tordre la cheville très facilement. Il monte et nous nous rendons compte que l'homme est aveugle. Il ne voit rien. Nous sommes allés vers lui et nous lui avons demandé « Pouvons-nous vous aider ?» Il dit « Je veux rencontrer l'homme qui prêche en ce moment. Conduisez-moi à l'homme qui prêche. J'ai besoin qu'il prie pour moi. » Nous avons dit « Señor, es una grabadora. Monsieur, c'est un magnétophone. Il n'y a personne en réalité, c'est un enregistrement. » Nous lui avons demandé « Pouvons-nous prier pour vous ?» Il a répondu « Oui, je veux recouvrer la vue. Je crois que Dieu peut me guérir. » Il était aveugle comme une pierre. Un groupe de personnes s'est rassemblé autour de lui en cercle, lui a imposé les mains et a prié pour lui. Et là, devant nous, Dieu a ouvert les yeux de cet homme. Quelqu'un lui a tendu une Bible et il a commencé à la lire. Je ne l'oublierai jamais. Il lit les Écritures et serre la Bible contre sa poitrine. Il s'est mis à sangloter. Il est tombé à genoux sur ce chemin de terre. Il répétait sans cesse « Gracias, mi Señor !»« Gracias, mi Señor !»« Gracias !»« Merci, mon Seigneur !»« Merci, Seigneur !»« Merci, Seigneur !» Dieu lui avait ouvert les yeux, mais je me souviens qu'il était très précis dans sa demande et nous devons être précis. Que voulez-vous ? J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a apporté quelque chose. Je me réjouis de vous revoir la prochaine fois. D'ici là, je prie pour que la richesse et le meilleur de Dieu soient toujours vôtres. Au plaisir de vous revoir.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.